Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 janvier 2026, il est 20h01 et vous écoutez l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
L'Happy Hour scientifique.
Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les deux.
Bienvenue, Munich.
Le saviez-vous, il existe une tradition assez répandue dans les quatre coins du monde qui consiste à gifler une fille lorsqu'elle annonce qu'elle a ses règles pour la première fois. Alors déjà que j'ai cru que j'allais mourir en voyant du sang dans ma culotte, je n'imagine même pas en plus si on avait voulu me donner une baffe. Les raisons de cet affront sont multiples. Éviter des douleurs pendant la règle en causant maintenant, marquer au fer rouge le passage à l'âge adulte avec un mélange de douleurs et de félicitations, allez v'là, la vie c'est dur, tu comprendras mieux comme ça. Ou encore une autre raison, pas du tout glauque et perverse, et je cite, tiens, parce qu'après, j'aurais plus le droit de t'en mettre une. Et oui, c'est bien connu que taper des enfants, c'est ok. Alors, c'est une tradition parmi d'autres, j'ai pu aussi lire dans certaines familles qu'on rinçait à l'eau la culotte qui accueillait les premières règles pour ensuite l'étaler sur le visage de la fille pour empêcher l'apparition de boutons pendant la puberté. Voilà. Bon, vous l'avez peut-être compris, nous allons donc parler aujourd'hui des règles, des menstruations, des ragnagnas. Bref, ce phénomène qu'une moitié de la population endure et qui sert littéralement à créer la vie. Rien que ça. Et même si on vit ce moment une fois par mois, ce qui correspond au final à juste 2500 jours, ou autrement dit 7 ans dans une vie, on n'est parfois pas toutes et tous au courant de comment marche cette belle machine. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ludivine Dorido. Ludivine, vous êtes enseignante chercheuse en physiologie à l'Université Paris-Cité et à l'Institut Cochin. Vous travaillez sur les pathologies gynécologiques, en particulier l'endométriose, et pilotez le projet Multimendo qui étudie le sang menstruel pour améliorer le diagnostic et la compréhension de cette maladie encore largement sous-étudiée.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Et pour ce 55e épisode de l'Happy Hour scientifique, nous sommes nombreux. Ne vous inquiétez pas, plus on est de fous, plus on rit, et ici, la quantité rime avec qualité. Comme de par hasard, nous sommes en majorité féminine aujourd'hui. Je vous présente alors la crème de la crème. Thomas, qui nous rafraîchira avec l'actu de ses gorgées de science.
Le quota masculin, bonsoir.
Jade, qui introduira notre sujet avec ses shots à l'invité, et qui m'accompagnera aussi pendant l'interview.
Bonsoir.
Héloïse qui nous racontera comment sont perçues les règles à travers le monde. Héloïse est en régie. Anaïs qui nous a concocté un caps ou pas caps des plus musicales.
Bonsoir à tous.
Emma aussi en régie qui nous personnifiera les différentes phases du cycle menstruel et Jocelyn de l'autre côté du rideau à la réal. Alors, je sais que vous écoutez cette émission majoritairement pour nos douze voix et notre humour légendaire, mais pour ceux du fond qui sont là pour apprendre quelque chose et se tenir au courant, quoi de mieux que de faire le topo des actualités scientifiques avec les gorgées de science de Thomas.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Et aujourd'hui, on commence les gorgées de science de janvier par un thème qui enivre, le dry January. Alors pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est, le dry January, c'est un défi qui consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier, histoire de se prouver qu'on n'est pas alcoolique et généralement d'enchaîner sur une cuite monumentale le 1er février pour fêter ça. En plus ça tombe bien parce que le 1er février ça tombe un dimanche, donc à mon avis vous allez avoir plusieurs collègues dans le mal lundi. Si vous avez réussi le défi ou que comme moi vous avez une consommation exemplaire... Pardon. Excusez-moi, vous faites bien car une récente étude publiée dans le journal The American Cancer Society a lié la consommation d'alcool à long terme à une hausse de risque de cancer rectal et colorectal. Sur 20 ans, les scientifiques ont suivi plus de 88 000 participants et participantes analysant leur consommation d'alcool hebdomadaire tout en réalisant des dépistages réguliers pour les cancers. Au bout de l'étude, 1679 participants ont développé un cancer. Les personnes avec une forte consommation, soit 14 verres par semaine, ont montré 25% de risque en plus de développer un cancer colorectal et 95% de risque supplémentaire de développer un cancer rectal, comparé à des personnes avec une consommation un peu plus modérée, à hauteur d'un verre par semaine. L'hypothèse qui est faite, c'est que la dégradation de l'alcool laisserait des composés cancérigènes dans le corps, ou alors une influence de l'alcool sur le microbiote intestinal. La bonne nouvelle quand même, c'est que les chercheurs ont prouvé que les personnes ayant arrêté l'alcool n'avaient pas cette hausse de risque de développer un cancer colorectal. En clair, arrêter l'alcool un peu plus longtemps que janvier, ça pourrait être une bonne idée et ça vous évitera de vous réveiller n'importe où. Ouf. En parlant de réveil, si vous avez du mal à vous lever le matin, figurez-vous que vous n'êtes peut-être pas seul, les méduses aussi. Et oui, ces charmantes créatures, aussi magnifiques que complètement flippantes, qui m'ont ruiné des vacances en Corse en 2022 en me piquant sur tout le cou, lol, peuvent dormir. Une étude publiée dans Nature a montré que ces animaux, pourtant très simples et dépourvus de cerveau, présentent de réels cycles de sommeil. Elles dorment environ 8 heures par nuit et elles kiffent une petite sieste en début d'après-midi, un peu comme nous, finalement. Petit rappel, le sommeil sert en partie à réparer les lésions d'ADN de nos neurones. Chez nous, ça fait plutôt sens, vu qu'ici, on a tout, enfin presque, un cerveau et des neurones. Et petite info, moi je l'ignorais, les méduses, même sans cerveau, ont des neurones. Et quand les chercheurs ont volontairement endommagé l'ADN de leurs neurones, avec des UV, ils ont constaté que les méduses dormaient plus. Avec cette découverte, on comprend que le sommeil est en fait plus une fonction biologique fondamentale apparue très tôt dans l'évolution, et pas juste liée à un cerveau. Maintenant, je fais un petit virage soudain sur la thématique de notre émission parce que je suis pas certain de pouvoir trouver une transition entre méduses et menstruation qui soit pas problématique. Direction le Canada, et si les règles ça vous passionne, on vous donne rendez-vous là-bas le 11 mars à Toronto, ou en visio si vous êtes fauché comme moi, pour un séminaire sur les règles et la vie hormonale. Women's Health Collective Canada propose la deuxième édition de Vital Talks pour des conférences d'expertes sur la santé hormonale, les recherches sur les règles, l'accès aux protections, l'équité menstruelle, le développement d'outils innovants et j'en passe. Le but, c'est de casser des idées reçues sur le sujet, donner de la visibilité à des femmes dans la science et concrètement à mettre l'accent sur la communication pour un sujet toujours tabou en BIC 2026, comme diraient les jeunes. Ouais, je me forme au langage moderne, merci. Bref, on vous encourage à vous renseigner.
Genre il a 30 ans, quoi.
Selon vous, oui. Et envoyez bien le lien à vos potes et surtout à vos mâles performatifs pour s'inscrire, voilà, voilà. Dernière info, parce que je vais approcher de la fin de ma chronique, et oui, je n'ai que 5 minutes, c'est pas moi qui fais les règles, petite blague sur l'émission, voilà. Des scientifiques de l'université de Stanford pensent avoir trouvé une technique pour régénérer le cartilage, et donc peut-être un remède contre l'arthrose. Et oui, vous, personnes âgées qui nous écoutez, et je dois m'inclure, vu qu'apparemment, selon mes camarades de classe, je suis un fossile de 26 ans, nous avons peut-être un espoir. Le coupable dans tout ça, c'est une protéine au doux nom de 15-PGDH, dont la concentration augmente dans le corps avec l'âge, on appelle ça une géroenzyme pour info, qui freine la capacité de réparation du cartilage. En bloquant chez la souris cette dite protéine, le cartilage a pu se régénérer et la mobilité et la fonction articulaire se sont nettement améliorées chez ces vieilles petites bestioles. Chez l'humain, c'en est toujours au test clinique, mais quand le même inhibiteur a été utilisé sur des échantillons de cartilage, de personnes opérées du genou, même chose, le cartilage se régénère et en bonne santé en plus. L'important maintenant, ça va être de trouver le bon équilibre parce que cette protéine a quand même une utilité dans la réponse inflammatoire. Donc, tout l'enjeu, ça va être de dire à la protéine de se calmer un peu, mais de quand même faire son travail. Pour les gens qui ont de l'arthrose, c'est une bien bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, les traitements pour ce trouble soulagent la douleur sans réparer le cartilage. Peut-être que cette avancée va permettre de changer la donne et au prochain repas de famille, Mamie Muriel pourra taper des sprints pour aller chercher son album de photos.
Merci beaucoup Thomas pour cette remise à jour scientifique. Maintenant Ludivine, nous te proposons un petit échauffement avant de commencer l'interview. Le principe est simple, répondre au plus de questions en une minute. Alors à toi Jade avec les shots à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors où vous suivez votre intuition, où vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
C'est parti. Pour ou contre le congé menstruel ?
Contre.
Est-ce qu'on a toujours mal quand on a de l'endométriose ?
Ou. Pas forcément.
Pour ou contre les protections hygiéniques gratuites ?
Pour.
Le flux instinctif, mythe ou réalité selon vous ?
J'ai pas testé.
Pour ou contre briser les tabous autour des règles ?
Pour, forcément.
Team tampon ou team serviette ?
Les deux.
La cup menstruelle, on valide ou pas ?
Je valide.
Faut-il parler des règles plus tôt aux jeunes ?
Je pense que oui, faut pas que ce soit un tabou.
C'est quoi le pire endroit pour avoir ces règles ?
Le pire endroit ? Aucun.
Faut-il changer la composition des protections hygiéniques ?
Oui. Et c'est fini !
Merci.
Parfait, nous sommes à présent prêts pour rentrer dans le vif du sujet. Alors avec Jade, on est allé ce matin questionner les Parisiens sur les règles et ce que c'était. Et les réponses sont quelque peu diverses. On écoute.
Selon vous, qu'est-ce qui se passe quand une femme a ses règles ?
Ça saigne.
Oh, bonne question.
Il y a une perte de sang, mais ça peut être douloureux.
Elles ont un changement hormonal, elles ont un nouveau cycle au niveau de leur appareil intime.
C'est la fin de la vie d'une ovule qui, si elle n'est pas fécondée et donc ne devient pas un embryon, est évacuée.
pas mal ou peut-être un peu moins. Et oui, on parle souvent des règles comme d'un simple saignement, mais beaucoup ignorent ce qu'il se passe réellement dans le corps pendant nos menstruations. Pouvez-vous, Ludivine, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'il se passe concrètement pendant les règles ?
Donc concrètement, pendant les règles, ce qui se passe, c'est que la muqueuse utérine, donc à l'intérieur de l'utérus, la partie qui est le plus externe, va se détacher et va être entraînée avec du sang à l'extérieur du corps, en passant par le vagin. Et c'est ça les règles.
Ok. Et les règles sont peut-être du coup la partie un peu la plus visible du cycle, mais les parcelles menstruées passent par différentes phases tout au long du coup du mois. Et comment en fait il se structure ce cycle du coup ?
Historiquement, on a dit les règles, c'est le début du cycle. Mais en fait, finalement, moi, j'aurais dit que c'était plutôt la fin du cycle. Mm-hmm. C'est une question de sémantique. Donc, il y a trois phases, on va dire. Il y a une grande phase, c'est la phase qu'on dit proliférative quand on parle de l'utérus, quand on parle de la muqueuse utérine parce qu'elle prolifère. On a d'autres termes quand on parle de l'ovaire. Donc, la phase proliférative, c'est globalement la moitié au début du cycle. Ensuite, on a l'ovulation, qui va créer la distinction entre la première phase et la deuxième phase. La deuxième phase, on dit que c'est une phase sécrétoire, c'est l'utérus qui se prépare à accueillir un potentiel embryon. Et effectivement, si il n'y a pas de fécondation, l'embryon, il n'y a pas d'embryon, le cycle va se terminer et la muqueuse va s'évacuer.
Ok.
Ce sera les règles.
Et voilà, elles sont là. Et on associe souvent ce cycle menstruel du coup, avec la durée de 28 jours. Alors, est-ce que ça s'agit vraiment d'une durée moyenne sur laquelle on peut se baser ou est-ce que c'est plutôt beaucoup plus complexe ?
C'est assez variable, ça dépend des femmes. C'est beaucoup plus variable au début de la vie d'une personne menstruée. Quand on a nos premières règles, généralement, c'est pas tout de suite la bonne durée, entre guillemets. Et en général, ça a tendance à devenir de plus en plus régulier. Mmh. Et après, généralement, une personne va avoir un cycle relativement régulier. Je ne sais pas c'est quoi le minimum, le maximum, mais on dit généralement entre 26 et 32 jours, c'est dans la norme. Je ne sais pas s'il y a
une date butoir.
Voilà, une date butoir ou si c'est 33, je ne dirais pas que c'est anormal. Si, généralement, au-dessus de 35, on va commencer à faire des explorations. Ou si c'est très irrégulier, ça n'arrête pas de changer. Okay. Mais pas les premières années. Ni les dernières.
Il y a une autre chose qui reste encore très mystérieuse sur les règles et qui effraie énormément la société, c'est le sang des règles, justement. Il me semble que ce fluide a des propriétés et une constitution plutôt intrigante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors le sang des règles, du coup, il contient des cellules immunes comme le sang qu'on trouve dans les veines. Et il contient la muqueuse utérine. Et donc, la muqueuse utérine, elle contient des cellules qui constituent l'utérine. Il y a deux grands types, les cellules épithéliales et les cellules qu'on dit stromales. Et il y a beaucoup de cellules souches. Enfin, elles ont des caractéristiques de cellules souches. C'est ça qui a créé aussi un petit buzz sur l'utilisation. C'est de se dire, on va peut-être pouvoir faire de la médecine régénérative avec le sang des règles.
Et au final,
il y a des gens qui travaillent dessus. Mais bon, voilà, le problème, c'est que ça reste tabou. Donc, ça dépend des cultures aussi. Il y a des cultures où, de toute façon, c'est mal vu, il ne faut pas en parler. Et ça dépend aussi des protections périodiques qu'on va utiliser. Parce que si on utilise une serviette hygiénique, globalement, ça va absorber le sang. Mm-hmm. Et il ne va pas être utilisable. Les cellules, elles ne vont pas forcément survivre. Donc, ce n'est pas hyper facile à récupérer. Enfin, c'est assez facile, mais on n'a pas toute la logistique pour le récupérer. Donc pour l'instant, c'est un fluide qui est très peu étudié, beaucoup à cause du tabou, et aussi parce que c'est compliqué de dire « je vais faire une étude, il faut venir le jour où vous avez vos règles, et puis je vais faire telle manip, et puis je vais montrer ceci, cela. Voilà. »
Et on entend encore aujourd'hui que les règles, du coup, ça rend les femmes hystériques ou trop sensibles à cause des hormones. Alors, quelle est la vraie influence, du coup, de ces hormones sur le cycle et que peuvent-elles réellement expliquer sur la variation, enfin, sur leur variation sur le corps et sur les émotions, du coup ?
Donc, j'ai pas trop parlé des hormones quand on a parlé des phases du cycle, mais effectivement, la phase proliférative, c'est avec une dominance d'ostrogène, qui est une hormone stéroïde. La deuxième phase du cycle, c'est un peu moins d'ostrogène et plus de progestérone, enfin une dominance avec de la progestérone qui est une autre hormone stéroïde. Et la fin du cycle, c'est les deux types d'hormones s'effondrent. Et en fait, quand ces hormones s'effondrent, on peut avoir des troubles de l'humeur. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, et c'est probablement lié à cette notion. Après, bon, voilà, chacun est différent. Si on est fatigué, on va peut-être mieux, plus ressentir les symptômes, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si la méduse qui a mal dormi va avoir un problème avec ce type de choses. Je ne sais même pas si la méduse a un cycle. Voilà.
Je fais mes recherches pour la première fois.
Et puis, une question toute simple, mais assez fatidique. Pourquoi on a mal quand on a nos règles?
Alors, tout le monde n'a pas mal, oui. Je le précise. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout l'intensité des douleurs et la fréquence. Si on a mal un petit peu le premier jour, il ne faut pas s'en inquiéter. Bon, voilà, ça va être agaçant. Je pense que toutes les femmes, à un moment donné, ont fait l'expérience d'une crampe liée aux règles. Le problème, c'est quand la douleur devient très intense, quasi permanente ou extrêmement récurrente, et qu'elle va nous empêcher de mener à bien notre vie quotidienne. Donc voilà, il faut écouter ces douleurs et voilà, se dire, est-ce que je suis capable de vivre avec, ou est-ce que ça m'empêche vraiment de vivre avec? Si c'est léger, que ça passe avec un antidouleur, pas besoin de s'inquiéter. Mais effectivement, on a souvent des douleurs aux premières règles. Enfin, les premiers cycles, je sais pas si c'est en lien avec le fait que le corps soit pas habitué, qu'on s'habitue, oui, etc. Mais il y a cette notion que globalement, avec l'âge, on tolère de mieux en mieux. Mm-hmm. Donc bon,
s'il n'y a pas de corps qui s'habitue,
je pense pas que ce soit extrêmement étudié. Mm-hmm. En fait, quelque chose qui pose pas trop de problèmes et puis qui s'améliore, bon bah globalement, on va pas trop s'y intéresser. Le problème, c'est qu'effectivement, ça ne s'améliore pas tout le temps. Pour certaines personnes, ça devient handicapant. Et donc là, il faut effectivement s'en soucier. Après, le mécanisme qui est derrière la douleur, pourquoi est-ce que des femmes vont avoir des douleurs extrêmement handicapantes et d'autres non? C'est pas ma spécialité, la perception de la douleur. Mais de ma compréhension, c'est pas hyper bien compris.
Ok. Et dernière petite question. Ou t'avais une question?
J'avais une petite question.
Mais dis-nous.
Est-ce qu'il y a des anomalies génétiques qui font que certaines femmes n'expérimentent jamais les règles? Peut-être au niveau chromosomal ou des choses comme ça?
Je pense qu'il y a des anomalies génétiques qui font que l'utérus ne se développe pas. C'est pas d'utérus, pas de règles.
Ok.
Après, est-ce qu'il y a... Et pareil, il y a des anomalies qui font qu'on n'a pas de cycle. Bah, s'il n'y a pas cette alternance au niveau des hormones... Il n'y a pas forcément de règles non plus.
Okay. Et dernière petite question, en tant que chercheuse...
J'espère que je ne dis pas de bêtises.
Ça devrait être bon, et ce n'est pas nous qui allons rectifier le tir.
Si quelqu'un m'écoute et que j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le dire, j'aime bien apprendre.
C'est une ligne téléphonique. Voilà.
Dernière petite question, en tant que chercheuse sur le sujet, est-ce qu'il y a une idée fausse sur les règles que vous aimeriez absolument corriger?
Ouais, cette idée que on perd un tissu qui est mort, que globalement il faut s'en débarrasser, etc. En fait, finalement, la plupart des cellules qui ont perdu, elles sont vivantes. Et il y a cette notion, c'est dégoûtant parce que c'est un déchet, il faut s'en débarrasser, etc. Et ça, c'est faux. Voilà.
Voilà, ça, c'est dit.
Merci. Et c'est beaucoup. pas sale. Cette notion-là aussi, c'est...
Merci beaucoup pour ces explications, en tout cas, Ludivine. J'espère à présent que vous saurez tous quoi répondre si vous êtes piégés par un micro-trottoir sur ce sujet-là. Il est à présent l'heure d'une petite pause musicale, et pour introduire notre prochaine thématique d'interview qui tournera autour de l'endométriose, nous avons choisi de non pas revenir en 2016, mais en 2014 avec une chanson d'Imani, une artiste engagée dans la sensibilisation de cette maladie qui n'hésite pas à parler de son combat contre celle-ci. On se retrouve donc dans quelques minutes et on vous laisse en bonne compagnie avec Imani et son morceau Don't Be So Shy.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat? The sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes.
drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Et c'était Don't Be So Shy d'Imani. Ça arrive.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
De retour sur l'Happy Hour scientifique sur le 93.9 FM. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Ludivine Dorido. Et on repart sur une très belle lancée avec une chronique d'Héloïse qui est arrivée sur le studio. Qui va nous raconter quelques anecdotes croustillante sur les règles dans le monde. C'est bien ça.
En France, nous avons une certaine manière de percevoir les règles et de les vivre. Dans l'Antiquité, les femmes menstruées ne pouvaient pas s'asseoir sous un arbre, c'était prendre le risque que les fruits pourrissent. Pareil pour les insectes. Selon Pline l'Ancien, un seul regard d'une femme menstruée causerait la mort de tout un essaim d'abeilles. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'une femme qui avait ses règles ferait tourner la mayonnaise. Heureusement, ces croyances ont changé avec le temps. Mais qu'en est-il des autres pays ? Ne vous inquiétez pas, j'ai mené ma petite enquête pour vous. On commence par le Népal, où il y a une tradition qui s'appelle le chopadi. Dans certaines régions, les femmes doivent fuir le village car elles sont considérées comme impures et pourraient jeter des sorts. Menstruées ou monstruées ? Telle est la question. Pendant leurs règles, elles vont alors vivre dans des huttes ou des granges dans la forêt. Alors, bien que ça paraisse agréable de vivre en communauté exclusivement féminine, ces isolements les exposent à de nombreux dangers, notamment au froid, aux morsures d'animaux ou encore même à des agressions. Cette idée selon laquelle les femmes seraient impures est retrouvée à l'international, dans des pays comme l'Indonésie par exemple, mais fait aussi partie des croyances des religions monothéistes. En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de manger de la viande, du riz, des légumes, de boire de l'eau froide et de s'asseoir sur un sol mouillé. Et ça va encore plus loin, elles ont aussi interdiction de se laver pendant leurs règles car cela les rendrait stériles. Cette croyance peut porter préjudice aux femmes puisque ce manque d'hygiène engendre de nombreux risques. Enfin, dans certaines communautés afghanaises, les femmes n'ont pas le droit de cuisiner et on les ignore jusqu'à la fin de leur menstruation, même dans le cadre familial. Tous ces mythes posent de grands problèmes sur la santé et la place des femmes dans la société. À cause d'eux, certaines ont un accès plus compliqué aux protections menstruelles ou sont obligatoirement déscolarisées durant leurs règles. Fort heureusement, cette vision des règles que l'on retrouve dans toutes les cultures ne fait pas l'unanimité. L'Inde, par exemple, a un rituel bien particulier, le Ritusudi. C'est une cérémonie importante qui accueille la première menstruation avec joie et célèbre la capacité de la jeune fille à donner la vie. Le rituel dure plusieurs jours avec prières, offrandes et cadeaux. Il représente un moment de fierté pour la jeune fille, mais aussi une transition vers des responsabilités plus importantes. Ce genre de tradition commence à se populariser en Occident. Certains mouvements féministes œuvrent pour instaurer des rituels de célébration dès les premières règles. Ils se concentrent sur l'autonomisation des jeunes filles et la reconnaissance de leur corps. En Amérique du Sud, certaines traditions chamaniques valorisent le sang menstruel comme un fluide sacré, porteur de mémoire et capable de nourrir symboliquement la terre. Enfin, il existe partout dans le monde des rituels de lune qui vont permettre d'accueillir comme il se doit les menstruations. Si ça vous intéresse, je vous ai préparé un petit guide du débutant. Pour commencer, il faut accueillir votre sang menstruel. Allumez une bougie, brûlez de l'encens, récitez un mantra et notez dans un journal vos ressentis. Ensuite, priorisez votre repos et nourrissez-vous spirituellement, en passant par exemple du temps dans la nature, loin de votre téléphone et des obligations du quotidien. Enfin, offrez votre sang à la terre, que ce soit vos plantes d'intérieur, des arbres ou encore l'herbe de votre jardin. En effet, le sang menstruel est composé de cellules et de nutriments, ce qui permettra de nourrir pleinement la terre. Cela dit, assurez-vous d'abord de bien diluer votre sang dans un verre d'eau. Bon, même s'il reste quand même beaucoup de boulot autour de la démystification des règles, le changement est en route. On commence enfin à l'international à briser les tabous autour des menstruations. L'éducation sur ce sujet se répand de plus en plus pour notre plus grand bonheur. Parce que les règles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas sale ou impur, c'est juste un phénomène naturel et rien de plus.
Merci beaucoup Héloïse. Tu les pratiques toi ces petits rituels ?
Je peux pas.
Tu peux pas.
Je peux pas parler de ce sujet pour l'instant, c'est pas possible.
Merci.
C'est tabou.
Bah oui. Comme de par hasard. Merci Louise, et je laisse maintenant la place à Jade pour la deuxième partie de l'interview.
C'est parti. L'endométriose est une maladie chronique qui touche environ une femme sur dix en France. Malgré une meilleure information, elle reste encore méconnue du grand public et de certains professionnels de santé. Alors Ludivine, pourriez-vous nous définir ce qu'est l'endométriose et comment se manifeste-t-elle au quotidien chez les femmes qui en sont atteintes, s'il vous plaît ?
Donc elle se définit par la présence d'un tissu qui ressemble à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc ça, c'est la définition acceptée. Ouais. La difficulté, c'est de les détecter, ces fragments qui ne sont pas à leur place. Ces fragments, on les appelle des lésions, généralement. Ça peut toucher plusieurs organes. Et ça va être associé à des symptômes qui vont nous pousser les professionnels de santé à les chercher, à les détecter. Donc ça va être des symptômes tels que les douleurs pendant les règles, très intenses. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, ça peut être de la fatigue, ça peut être tout plein de symptômes. Et c'est un peu pour ça que c'est difficile à diagnostiquer, c'est parce qu'il n'y a pas qu'un symptôme et puis toutes les femmes ne vont pas faire l'expérience des mêmes symptômes. Il y a même des femmes qui n'ont pas du tout de symptômes et généralement dans ce cas-là, c'est quand elles ont des problèmes de fertilité qu'on va détecter qu'il y a une endométriose.
D'accord, mais justement, à partir de quels symptômes faut-il s'inquiéter ? À partir de quel moment ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des éléments scientifiques pour aider à diagnostiquer l'endométriose ?
Donc le critère qui est un signe d'alerte, c'est effectivement déjà c'est des douleurs qui empêchent de vivre sa vie quotidienne, ses activités habituelles, en particulier pendant les règles, et ou d'autres douleurs qui vont avoir tendance à s'empirer au moment des règles. C'est un peu ce côté-là, ce côté cyclique, le fait que c'est des douleurs qui ne sont pas tout le temps pareilles et qui vont avoir tendance à empirer au moment des règles. Donc ça peut être des ballonnements digestifs et au moment des règles, ils deviennent vraiment, vraiment beaucoup plus gênants. Donc voilà, ça va être ces signes-là qui doivent pousser à les consulter. Et maintenant, il y a des filières de soins qui sont définies. Donc on peut aller voir les gens qui sont formés pour vérifier si c'est bien une endométriose ou si c'est un autre problème de santé.
Et ces lieux, on les retrouve partout ?
Donc les filières de soins endométriose, elles sont établies dans chaque région. Donc si on tape filière de soins endométriose sur Internet, il y a une liste pour chaque région.
D'accord. Et justement, par rapport au diagnostic, pourquoi le diagnostic de l'endométriose est-il souvent tardif ? Et quel intérêt y a-t-il à étudier le fluide menstruel ?
Donc on pense que... Alors, je réponds à la deuxième question d'abord.
D'accord.
Pour le fluide menstruel, on pense que ces fragments qui se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, ils ont été déposés par un reflux qui venait de l'utérus. Pendant les règles, il y aurait des fragments de la muqueuse utérine qui passeraient par les trompes de Fallope.
D'accord.
Au niveau de l'ovaire, en fait, il y a un petit passage, donc ça peut passer là. Et ça se retrouverait donc dans le ventre, globalement dans la cavité péritonéale. Et ça, c'est des fragments qui persisteraient, qui formeraient les lésions.
Oui.
C'est une théorie parce qu'on ne peut pas l'observer. Mais c'est la plus étayée.
D'accord.
Et du coup, donc déjà, ça lie la physiopathologie, l'établissement de la maladie avec les règles. Et puis après, il y a plein d'autres arguments. Les femmes qui ont des règles plus tôt, elles sont plus à risque. Les femmes qui ont des règles plus abondantes, elles sont plus à risque. Les femmes qui ont des règles pendant plus longtemps, en termes de nombre de jours, elles sont plus à risque. Donc tous ces arguments-là, ça va dans le lien entre les règles et l'endométriose. Et après, la première question,
c'était le diagnostic, pourquoi il est si tardif ?
Alors du coup, la première raison, c'est plein de raisons cumulées.
D'accord.
Donc là, il y a le fait que les femmes elles-mêmes ont toujours entendu avoir mal pendant ses règles, c'est normal, te plains pas, serre un peu les dents, ça va passer. Et c'est vrai que si ça passe, pour en avoir, enfin pour avoir vu des femmes qui avaient des douleurs invalidantes, mais qui deux jours plus tard ça allait mieux. On a un peu tendance à oublier la douleur. C'est, je pense que c'est complètement physiologique d'essayer d'oublier que les règles, que la douleur
comme
était si intense. Exactement.
Ouais.
Heureusement, sinon on recommencerait pas. Donc je du coup, c'est oui. un peu ce côté-là. C'est un peu genre, oui, j'ai eu très très mal, j'ai pas pu aller bosser, mais ça va déjà mieux et donc du coup, bah, il va y avoir une perte. Enfin, on va attendre que ça se reproduise, Voilà. On va et puis voilà. Si ça n'arrive qu'un mois, bah, c'est peut-être pas de l'endométriose. Mais voilà, il y a ce côté récurrent.
Ouais.
Et puis bah, du coup, si on attend un mois, deux mois, trois mois, enfin bon, voilà. Donc il y a donc un délai avant que la personne qui fait l'expérience des symptômes aille voir un personnel de soins. Et ensuite, il y a la formation des personnels de soins.
D'accord.
Pendant jusqu'à tout récemment, les études de médecine générale ne traitaient pas d'endométriose.
Oui, c'est fou, c'est assez fou.
Voilà. Après, le médecin généraliste, il peut très bien orienter vers un gynécologue. Et puis, il y a pas mal de femmes qui voient un gynécologue. Donc, les gynécologues, ils avaient déjà vu ça. C'était dans leur formation. Et après, parce que dans la société, on disait que c'est normal, bah, même les médecins, ils font partie de la société. Donc, il y a des médecins qui avaient tendance aussi à ne pas écouter, ne pas croire finalement que c'était si impactant. Un peu ce côté, on minimise la douleur des femmes. Et ça, c'est... toutes les pathologies confondues. Quand une femme dit qu'elle a mal, c'est d'ailleurs prouvé, ça va être sous-estimé par rapport à un homme qui dit qu'il a mal. On va plus le croire et on va plus... Donc, du coup, voilà, y a plein de trucs structurels. Et puis après, il y a le fait que voilà, les symptômes sont multiples, pas toujours les mêmes selon les patientes. Et après, donc, pour faire le diagnostic, il faut observer ces lésions. Donc, du coup, une fois qu'on a la suspicion parce que les symptômes sont là, on va faire de l'imagerie médicale. D'abord, en général, une échographie, éventuellement après un IRM. Et les échographies sont assez performante pour détecter certaines formes d'endométriose, mais pas toutes, parce que parfois les lésions sont toutes petites. Et enfin, quand je dis toutes petites, ça veut dire peut-être moins de 5 mm. Et donc, du coup, bon, bah, ça ne va pas forcément être super facile de savoir. Et en plus, comme elles peuvent être pas plein d'endroits, on ne sait pas où regarder exactement. Donc, les formes les plus faciles, en général, enfin, plus faciles, c'est ça dépend, il faut quand même avoir l'œil, c'est celles qui sont sur l'ovaire. Elles font un kyste. Donc, ceux qui sont habitués à faire ça, ils y arrivent. Et après, bon, bah, voilà, tous les radiologues ne sont pas formés à faire ces analyses d'images. Donc voilà, y a plein de choses qu'on peut améliorer. Et puis, bah, si jamais à l'imagerie, échographie et IRM, on n'a pas de signes, ben, généralement, ce qui reste si la personne est vraiment impactée dans sa vie quotidienne, c'est la chirurgie.
D'accord.
Et donc là, à la chirurgie, maintenant, on ne fait plus de chirurgie de diagnostic. On fait des chirurgies où on regarde et on enlève les lésions aussitôt. Donc, c'est une chirurgie qui peut potentiellement être curative.
D'accord, ok. Et du coup, cette chirurgie, elle est appliquée même si on n'est pas sûr exactement de ce qui se passe ?
Bah, c'est discuté. Le problème, c'est que quand on fait une chirurgie, on n'est pas sûr que ce soit curatif. Il y a beaucoup de récurrences. Donc, en général, ça marche assez bien. La plupart du temps, les personnes qui sont opérées sont soulagées.
Oui.
Mais potentiellement pas sur du long terme. Et par contre, des chirurgies multiples, bah, ça crée d'autres problèmes. Si c'est il y a des chirurgies qui vont être très compliquées, parce que si la lésion elle est sur un tissu, sur un autre organe, bah, ça peut impacter l'autre organe. Donc ça peut être des chirurgies complexes. C'est pour ça qu'on conseille de faire dans des centres experts. Donc voilà, il y a plein de questions avec la chirurgie. Et donc ça se questionne de faire une chirurgie. Le problème, c'est que si on a une femme qui souffre énormément et on ne sait pas ce qu'elle a, voilà.
Et à l'heure actuelle, il n'existe pas d'autre méthode que la chirurgie pour justement atténuer les douleurs pour ces femmes-là ?
Si, si. D'ailleurs, on ne va pas faire une chirurgie. Si on soupçonne qu'il y a une endométriose, même avant de faire les échographies et l'IRM, à mon avis, on leur propose le traitement de première ligne, qui est la pilule contraceptive. Et il y a une petite majorité qui va être soulagée par ça.
J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup votre projet Multimendo, je le prononce correctement,
Multimendo.
Qui étudie le sang des règles de 250 femmes, s'il vous plaît.
Oui, alors déjà je vais décomposer. Donc multi, c'est parce qu'on fait une approche multiple. On va mesurer différents types de molécules, des ARN et des protéines. On a MEND pour le terme anglais corrigé. Et c'est le jeu de mots avec men et endo pour endométriose. Donc j'en suis fière parce que j'y ai réfléchi longtemps. donc je l'explique. Et donc du coup, effectivement, l'idée c'est de récupérer du sang de règles de volontaires qui vont porter une coupe menstruelle. Et qui vont la porter 4 heures, nous donner leur sang de règle qu'on va obtenir au laboratoire. Et nous, à l'intérieur de... Enfin, avec ce sang de règle, on va essayer de l'évaluer sous toutes les formes. On va regarder toutes les cellules qui sont dedans. Qu'est-ce que toutes ces cellules... à l'intérieur de ces cellules, est-ce qu'il y a des ARN messagers qui sont exprimés et qui pourraient être associés à la pathologie? Et on va étudier aussi les protéines qui sont à l'extérieur des cellules et certaines protéines qui sont à l'intérieur des cellules. Donc on va essayer de... Voilà, on a la technologie a tellement évolué que maintenant on peut faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire il y a 10 ou il y a 15 ans. Et donc du coup, on va essayer de profiter de ces technologies pour caractériser le sang.
J'ai le temps pour la dernière question. Pourquoi vous avez choisi de développer des organoïdes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et comment peuvent-ils aider à trouver des nouveaux traitements contre l'endométriose?
Donc les organoïdes, comme leur nom un peu essaie de l'indiquer, c'est des petits organes qu'on fait pousser dans des boîtes de pétri, enfin dans des boîtes de culture. Donc on essaie de prendre les cellules qui composent l'organe et de reproduire cet organe au laboratoire.
D'accord.
Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire la muqueuse utérine et d'essayer de comprendre comment elle va fonctionner et comment, potentiellement, chez les femmes qui ont l'endométriose, il ne fonctionne pas exactement correctement. Et c'est intéressant parce que déjà, ça nous permet de s'approcher des causes de l'endométriose et d'essayer de trouver des stratégies pour corriger les altérations qu'on pourra mettre en évidence.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci. Il est maintenant l'heure du fameux et réputé CAPS ou pas CAPS. Je laisse donc la parole à Anaïs pour un jeu des plus rythmés.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Malgré le fait qu'il concerne une grande partie de la population, le sujet des menstruations reste encore aujourd'hui peu abordé, entouré de tabous et souvent relégué au silence. Entre métaphores discrètes, paroles engagées ou détournements poétiques, ce thème apparaît parfois là où on ne l'attend pas. Alors les règles du jeu sont simples, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. Je vais vous proposer des paroles de chansons qui parlent de menstruation. À vous de deviner si ces paroles proviennent d'une vraie chanson existante ou si elles ont été entièrement inventées par mes soins. Vous êtes prêts?
C'est parti.
Ce que t'appelles les ragnagnens. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Mais comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent, mais pour les élever, il y aura des absents. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Alors ?
C'est Stromae. On connaît.
Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de Stromae avec son célèbre titre « Tous les mêmes ».
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faits.
Je vois que vous avez compris les règles du jeu. Alors, la suite risque d'être un peu plus surprenante, puisque je vous ai déniché des pépites des profondeurs d'Internet. Mais je vous rappelle qu'à tout moment, j'essaie de vous troller, ok?
Ok. C'est parti.
Alors, au rythme de la jungle, on dansera. Les corps sont fins. Tu deviendras panthère entre mes jambes. Une rivière de toi, une couleur de toi, une fois par mois. Mon amour mord ma main. Entre des spasmes, du sperme et du sang. C'est génial si on vient en nageant entre du rouge et du blanc. Alors, ces paroles.
Moi, je pense que c'est réel.
Ouais, moi, je pense que c'est réel.
Moi, je pense pas.
Tu me trompes.
J'espère pas.
Et bien, vous savez quoi? La réponse en musique.
Mon amour mord ma main entre des spasmes, du sperme et du sang. C'est génial si on vient en nageant entre du rouge et du blanc.
C'est poétique, hein?
Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit effectivement d'une vraie chanson dont le titre est plutôt évocateur, puisqu'il s'agit de menstruation incarnée par Poisson de l'Aube. Bon, alors chacun ses goûts, hein. On passe peut-être à la suivante. 12 fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur.
se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Alors, cette fois-ci...
Moi, je pense que c'est toi.
Je pense aussi que c'est toi, mais ça... Peut-être pas...
Moi, je pense que c'est vrai. Ouais.
C'est mitigé, alors... Eh oui, il s'agit d'une vraie chanson. Et tout de suite en musique.
12 fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Ce mal.
Alors, vous venez d'entendre un extrait de 12 fois par an, une chanson de Jeanne Chéral. Allez, on passe à la suite. J'efface les règles à la gomme, celles qui m'interdisent d'être libre. Mon corps se tord face aux normes qu'ont imposées ceux qui ont un chibre.
Ouh.
Alors, cette fois-ci, est-ce que ce sont des paroles d'une vraie chanson ou j'essaye de me moquer de vous?
T'es vachement inventive hein, quand même là, si c'est toi.
J'espère que tu te moques pas de nous.
Non, moi je pense que c'est toi.
Eh bien, je vous remercie pour ma plume. Mais non, enfin du coup, mais si, ce sont mes paroles de ma composition. J'espère tout de même que ces paroles pleines de poésie ont pu vous faire un petit peu sourire. Alors on continue. Car déjà une bulle grandit en moi. Ah bah oui, j'ovule, on est le 12 du mois. Et la magie opère, je douille sa mère. J'ai mal aux reins et je suis crevée. J'ai mal au sein, j'ai de l'acné. Alors, cette fois-ci...
En fait, je le vois pas dans une chanson, il y a trop de rythme, de rime, pardon.
Donc, okay. Je pense que c'est toi aussi.
Moi, je la connaissais, c'est une chanson.
Ah.
C'est quoi ? Je vois qu'il y en a une qui est une connaisseuse.
Ah ouais.
Effectivement, l'humoriste Laurie Perret a sorti un sketch slash chanson qui s'intitule « Mon cirque menstruel ». Et tout de suite, pour notre plus grand plaisir, l'extrait musical.
Car déjà une bulle grandit en moi. Ah bah oui, j'ovule. On est le 12 du mois. Et la magie opère. Je douille sa mère. J'ai mal aux reins et je suis crevée. J'ai mal au sein, j'ai de l'acné. Ouais, des gros stars qui me dégoûtent. Que quand je les crève, ça...
Oui.
Tu peux continuer.
Ok, je continue, pas de soucis. Alors, prochaine chanson, ça serait... Oh, les menstrues, les ragnagnins, qui coulent comme les chutes du Niagara, qui coulent comme des larmes sur tes joues, n'oublie pas tes cachets pour la douleur du bidou. Tampons, cup, menstruel, serviette hygiénique, on va pas se mentir entre nous les meufs, côté budget, ça pique. Alors cette fois-ci...
Inventé ?
Ouais, moi je pense aussi.
Aussi, ouais.
Je sais pas.
Ah, ça paraît pas très crédible comme chanson ?
Je sais pas.
Eh bien, pourtant, c'est une vraie chanson. La réponse en musique.
Oh les menstrues, les ragnagnas, qui coulent comme les chutes du Niagara, qui coulent comme les larmes sur tes joues. N'oublie pas tes cachets pour la douleur du bisou.
Et c'était la dernière chanson que je vous proposais, une chanson qui s'intitule « Les règles de Ménestrel ».
Merci.
Merci.
Merci Anaïs pour ce superbe jeu. Alors, on va rester dans une ambiance musicale puisqu'il est l'heure de notre deuxième pause. Cette fois-ci, nous écoutons une exclusivité d'une jeune artiste. Nous vous présentons « Adieu demain » de Rog.
Dans le passé, tout me ramène à toi. Ton odeur est restée imprégnée sur mes draps. J'angoisse de l'échanger, j'ai trop peur d'oublier. Tout le temps qu'on a passé à se contempler dans le noir. Diversion, je tente tout pour occulter ma haine. T'as déjà levé l'angle, effacé tous nos problèmes. Impartial, tu m'empêches, tu me brides et me freines. Comme s'il n'y avait que moi qui ressentais de la peine. J'irais me balader, hurler à corps perdu, crachant tout cet amour qui nous a tout détordu. Je te laisserai du temps, mais tu ne me reviendras pas. Il est temps de tourner cette page qui nous traîne en bas. Et si demain tu pars, tu me lâches et t'envoles, dis-moi au moins
se voir. Et si demain tu pars sans me prévenir, dis-moi au moins ce qui ne va plus. Je n'ai pas su le voir. Ton absence est gravée dans ce vide immense, faites perdre la tête, je noie ma peine en silence. Rencontrer amour simple, je te remplace. Si demain tu reviens, t'auras toujours une place. J'oublierai nos désaccords et nos dissonances. Tu transposerais nos mots, corrigerais nos insolences. Je composerais des ballades pour oublier la noyade. Je changerais de disque, on sera sur d'autres tempos. Je prendrais mon billet pour l'inconnu, vois-tu. Sans nul autre regret, je m'avouerai vaincu. Je retracerai ma route sans jamais me retourner. Ce temps est révolu, celui où je t'attendais. Et si demain tu pars, tu me lâches et t'en vas. Dis-moi au moins ce que j'ai fait pour te décevoir. Et si demain au moins ce qui ne va plus, je n'ai pas su le voir. Si demain tu pars, tu me lâches et t'en vas. Dis-moi au moins ce que j'ai fait pour te décevoir. Et si demain je n'ai pas su le voir.
Et c'était Adieu demain de Rog.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Nous voilà de retour pour la dernière partie de votre émission préférée. Comme expliqué en début d'émission, chaque personne menstruée passe par plusieurs phases durant son cycle. Et grâce à Emma et sa chronique, nous allons voyager à travers ces étapes et un peu à la vice-versa, nous allons découvrir des versions personnifiées d'elle. Alors à toi l'antenne, vas-y Emma.
Le monde adore la stabilité, la performance et la disponibilité. À l'école, on nous demande la même énergie le lundi à 9h et le vendredi à 16h. Au travail, j'ai une réunion le même jour tous les mois. Sauf que moi, j'ai un cycle. Différent du tien, différent du sien. Mon cycle n'est pas fixe et des fois, hormonalement, c'est le bordel. Pourtant, on me demande d'être réglée comme une horloge. Le monde aime la stabilité, moi je suis cyclique. Et entre les deux, il y a un malentendu. Tout commence par mes règles, période plus ou moins longue en fonction des personnes. Chez moi, ça dure 5 jours. Chez mon amie Clara, ça dure 7 jours. Personnellement, j'ai très mal au dos et au ventre pendant mes règles. J'aimerais rester allongée toute la journée dans mon lit à certains moments. J'ai mal, j'ai des crampes, je suis fatiguée. J'ai besoin de calme, je dois toujours vérifier si j'ai une protection sur moi, si je n'ai pas de taches de sang. Et encore, je n'ai pas d'endométriose. Ce n'est rien comparé à d'autres personnes menstruées. En plus de saigner, d'avoir des douleurs, mes hormones sont au plus bas. C'est un peu comme si j'étais en économiseur d'énergie. Mon corps fait un reset complet. Je suis fatiguée, j'ai besoin de calme. À ce moment, c'est un peu ma période d'introspection. Pourtant, j'ai la sensation que le monde me demande d'être souriante, présente. Ce n'est pas de la paresse ni un manque de motivation. C'est juste mon corps qui travaille autrement. Après le début des règles, mon niveau d'œstrogène augmente peu à peu. Je rentre dans ma phase folliculaire. Doucement, je redeviens la moi qui dit oui, j'ai envie de faire du sport, d'avoir des projets. Au bout du 14e jour, je rentre dans la phase d'ovulation. Je libère mon ovule et mes niveaux d'œstrogène augmentent. Ils atteignent leur pic à ce moment-là. C'est à ce moment que je prends ma place. Je parle plus fort, je me sens en confiance, je me sens légitime. J'aimerais que ça dure tout le temps. J'aimerais avoir cette confiance tous les jours. Si seulement toutes mes réunions étaient posées à ce moment-là. En tout cas, ça c'est moi. Mais ma copine Clara, elle, c'est une période où elle est plus irritable, car elle a ce qu'on appelle des sauts hormonaux. Et c'est ça qui est important à comprendre. Il n'y a pas de bonne manière de vivre son cycle. Il y a autant de cycles que de personnes. Je vous ai dit que j'ai libéré mon ovule. Et en fait, le follicule qui l'a libéré, il forme ce qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune, il sécrète de la progestérone, une autre hormone. Dans le cas où aucun spermatozoïde n'a fécondé mon ovule, la fin du cycle va déclencher les syndromes prémenstruels. Personnellement, c'est une période que je déteste. En fonction de ce qu'il se passe dans ma vie, j'ai des humeurs qui diffèrent, tristesse, anxiété, stress, mais aussi des douleurs qui apparaissent au sein, au ventre, au dos. Souvent, je dors mal et je suis sur les nerfs. Et pour couronner le tout, je me retrouve avec des boutons qui poussent un peu partout sur le visage. Bon, au moins ça me permet de me rappeler que je vais avoir mes règles bientôt. Et pourtant, à ce moment-là aussi, on attend de moi que je sois présente à 8h en cours, ou que je puisse rester plus tard pour des projets en groupe. Et ça redémarre. Mon cycle n'est pas régulier, et pourtant ça fait des années que je suis menstruée. Mon cycle ne dure pas 28 jours, comme c'est dit sur internet. Il est un peu plus long ou un peu plus court en fonction des mois. Et puis des fois, je stresse plus que d'habitude et mes règles ont du retard. Parfois, j'ai des symptômes très prémenstruels beaucoup plus longs que prévu, et des fois, je ne les ressens pas du tout. Mais le monde tourne et attend de moi que je sois toujours disponible, apprêtée et en forme. Et si le problème n'était pas mon cycle, mais l'organisation du monde?
Waouh!
Trop cool!
Emma, pour cette superbe chronique, on reprend maintenant notre interview et nous nous intéressons à présent au futur des recherches sur les besoins féminins. Il existe aujourd'hui littéralement plus d'études sur la dysfonction érectile ou la prostate que sur la ménopause ou le col de l'utérus. Une analyse de plus de 440 000 brevets médicaux menée à partir de données de la National Library of Medicine montre que les équipes de recherche exclusivement masculines développent majoritairement des innovations ciblant les besoins des hommes. Contrairement aux équipes constituées de femmes qui étudient, elles, des secteurs qui concernent les deux genres. Oh mon Dieu ! Pourrait-il que cela soit du sexisme ? Pas en 2026, quand même ! Ludivine, depuis l'annonce de votre projet de recherche, quel retour avez-vous reçu du corps médical, des institutions ou des personnes concernées ? Et qu'est-ce que cela révèle sur l'état actuel de la prise en charge des règles ?
Juste, la majorité de mon équipe, c'est des femmes. Alors... Peux-tu reposer la question ? Désolée.
Oui, bien sûr. Depuis l'annonce de votre projet de recherche, quel retour avez-vous reçu de la part du corps médical, des institutions, des personnes concernées ? Et qu'est-ce que ça révèle ?
Alors, globalement, j'ai souvent eu des retours très positifs. Mes collègues, c'est souvent eux qui m'ont fait des retours. Les participantes qui apprennent... on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui nous ont contactés en disant « Ah, c'est super que vous fassiez !» Puis après, on a eu les commentaires que vous voyez sous... Voilà, il y a eu des petites interviews, puis après, il y a des commentaires. Donc là, les gens se lâchent un peu plus. « Ah, dis donc, pourquoi ils n'y ont pas pensé avant ?» C'est hyper facile de dire ça, parce que globalement, moi aussi, je me pose la question « Pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Mais bon, voilà, j'y ai pensé maintenant, et je suis bien contente que ça ait lieu maintenant. Et pour rebondir sur ta chronique, je suis complètement d'accord que... Le cycle, ça atteint les différentes femmes différemment. Et clairement, c'est un sujet, c'est un non-sujet en fait. C'est pas étudié. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire de façon de plus grande envergure. Mais voilà, on pose pas la question. T'es dans quelle phase de ton cycle ? Et puis en plus, on en parlait tout à l'heure. On vient pas en disant aujourd'hui j'ai mes règles. Enfin, on va en parler entre copines.
Règles en cours.
Voilà, peut-être. Ah mince, t'as pas un tampon. Mais sinon, voilà, c'est un sujet. Genre, faut pas en parler, faut pas être stigmatisé, faut pas. Et donc du coup, ça limite aussi les recherches. Mais j'aimerais bien que ce soit un sujet qui émerge. Ouais. Et je pense que on est en 2026 et depuis quelques années, j'ai l'impression que l'opportunité se présente.
Tout au long de cette émission, on a donc pu comprendre que les règles n'étaient pas la priorité numéro une de la recherche scientifique. Mais dans un monde idéal où les subventions coulent à flot et les études sont abondantes, pourrait-on imaginer un monde sans douleurs menstruelles ?
Waouh ! Dure comme question ! Quand on investit sur quelque chose, en général, on arrive à des résultats. Hein, on comprend mieux. Après, ça fait des années qu'on investit sur la recherche sur le cancer. On ne l'a pas encore guéri. Hein, il y a aussi des réalités. On arrive à mieux vivre avec. On arrive à le retarder. C'est mon espoir en fait, pour les douleurs de règles, qu'on arrive à mieux les traiter, à mieux les comprendre pour pouvoir mieux les traiter. Est-ce qu'on arrivera à les faire disparaître ? Je ne sais pas.
à partir de quand, justement, cette ignorance et un peu le manque de recherche qu'il y a du coup autour des règles, elle devient un véritable problème pour la santé publique et pas seulement du coup une question de juste douleur banalisée, ah j'ai un peu mal, mais à partir de quand ça devient un vrai problème du coup ?
Bah, du coup, ça a été évalué et c'est aussi ça qui a poussé à investir sur le domaine. C'est bon, tout autour de. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent. C'est qu'on en a prouvé que globalement, les maladies chroniques, et l'endométriose en est une, va impacter la capacité des gens à travailler. Et donc, les gens, s'ils ne peuvent pas travailler, bah, ils n'apportent pas financièrement la société. Et du coup, ça a un coût économique pour la société. Et donc, du coup, bon, bah, c'est réalisé que ce coût étant énorme, il est temps d'investir pour le réduire.
Merci beaucoup. Votre étude, elle arrive du coup dans un contexte un peu de sous-financement, de la recherche sur les femmes. Et concrètement, comment vous voyez ce déséquilibre ? Est-ce que vous le ressentez beaucoup dans votre étude ou pas ?
Alors, le domaine, de façon générale, est clairement sous-doté. Après, je me considère chanceuse, c'est peut-être pas le bon terme, parce que j'ai bossé comme une dingue pour obtenir les financements que j'ai eus, mais je suis dans un labo où on a obtenu des financements pour travailler là-dessus, et donc on n'a pas l'impression que nous, on est sous-doté à titre individuel. Mais clairement, le domaine est sous-doté, et c'est pas des priorités énormément stratégiques. Mais en fait, les deux bougent en même temps. C'est-à-dire que la prise en compte dans la société... fait qu'il y a un réveil des gens qui évaluent les dossiers, qui se disent « Ah oui, mais c'est vrai que c'est vraiment important, on ne connaît pas, il faut y aller. » Et donc, du coup, voilà, c'est complètement interconnecté parce qu'en fait, les gens qui prennent les décisions, qui décident qu'ils vont investir, qui évaluent les projets, si ça leur parle, eux-mêmes vont avoir plus envie d'investir. Donc voilà, ça bouge, c'est pas suffisant, puis ça va pas permettre de rattraper des décennies de retard comme ça, mais ça bouge.
J'aurais aimé vous poser tellement plus de questions, mais malheureusement, on arrive à la fin. Merci du coup beaucoup Ludivine pour ces réponses ensanglantées. Malheureusement, du coup, c'est déjà la fin de l'Happy Hour scientifique pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé un super moment avec vous. Merci à nos invités et merci à mes petites globules rouges préférées qui est toute la team de l'Happy Hour scientifique. On avait avec nous aujourd'hui Thomas, Jade, Héloïse, Anaïs, Emma et Jocelyn à la technique. Et quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de l'Happy Hour scientifique le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @hhscientifique, et à se faire un petit marathon de toutes nos précédentes émissions en replay sur votre plateforme de streaming favorite.
Merci Anna.
Bye.
Merci.
Bon, ben, il y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs.